Je vais prier. Seigneur, je te remets cet instant où nous voulons vraiment écouter ta parole. Ouvre notre entendement, notre cœur, nos regards, nos yeux spirituels aussi pour voir ta gloire se manifester à travers aussi ta parole. Et aussi que tu nous inspires pour pouvoir aussi mettre en pratique ce que nous apprenons, ce que nous écoutons, Seigneur. Vraiment, bénis ce temps par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour à tous. Suite à cette occasion de prédication, j'ai réfléchi un petit peu sur mon ministère. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans le ministère. Et ça fait maintenant 10 ans que je suis à Vendeuvre. Donc ça fait quand même pas mal. Hein. Enfin, je veux dire, le temps passe vite. Le temps passe vite. Et je ne portais pas tout le temps mes lunettes tout le temps. Ça fait déjà seulement 6 ans. Ouais. C'est Vendeuvre qui me fait porter mes lunettes. Et pour mieux étudier, bien sûr, la parole. Pour approfondir la parole. Et je me dis que si je ne portais pas mes lunettes maintenant, ben je ne pourrais pas lire ce que j'ai écrit. Et c'est vrai, c'est maintenant, la vue est très importante dans la vie. Sans ma vue, je pourrais, en tout cas, je pourrais pas avoir un ministère tel que j'ai actuellement. Ce serait une autre forme, mais ce ne sera pas ce que moi j'ai actuellement. Et suite à ça, je me suis dit, si on réfléchit bien, c'est vrai que l'homme a toujours cherché à améliorer sa capacité à observer et à comprendre le monde qui l'entoure. Et pour ce faire, bah oui, l'homme a créé des outils, des dispositifs innovants pour, comme des lunettes, voilà, hein, pour pouvoir mieux voir, mais aussi le microscope, la radio, etc., pour mieux voir. Cela a révolutionné pour développer dans le domaine de la science, dans le domaine de la médecine, etc., etc. Et cela a ouvert aussi la voie à de nouvelles découvertes, etc., pour des progrès continus. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la vue, la bonne vision, la bonne vision. Ce n'est pas seulement la vue, mais la bonne vision spirituelle. J'aimerais rajouter ce mot spirituel. Et pour mieux voir ce thème, je vous invite à voir dans le livre 2 Rois, chapitre 6. On est toujours avec Élisée, hein, le prophète Élisée. Je vais vous lire à partir de verset 8, 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Voilà. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie, en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est comme est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Oh, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà jusqu'ici notre lecture. C'est dans la continuité, nous avons vu des miracles qui s'est produit avec le général Naaman, et puis nous avons vu aussi Géasi, le serviteur de Élisée. Et puis par la suite, maintenant, nous voyons les Syriens qui font la guerre contre l'Israël. Et donc si nous regardons un petit peu plus sur le verset 8, de verset 8 à 12, nous voyons la Syrie était en guerre avec Israël et le roi de Syrie cherche à capturer le roi d'Israël. Et donc il réfléchit, il met des stratégies, des guet-apens même pour pouvoir l'attraper. Et puis pendant ce temps, Dieu révèle le projet de ce roi syrien à Élisée, tous ses projets. Il informe donc, après avoir reçu tous ses plans de l'ennemi par le Seigneur Dieu, Élisée informe au roi d'Israël, lui divulguant l'emplacement des guet-apens des Syriens. Le roi de Syrie est ainsi donc intrigué, parce qu'à chaque fois qu'il met en place quelque chose, ça ne marche pas. Donc, en tout cas, sa stratégie était déjouée à chaque fois. Il pense au départ qu'il doit y avoir un traître parmi eux. Or, après discussion, avec la remarque d'un de ses serviteurs, le roi, donne cette conclusion que oui, c'est effectivement Élisée, le prophète d'Israël, qui doit recevoir des révélations par l'Éternel, qui informe aussi au roi d'Israël tous ses plans. C'est ainsi que le prophète Élisée était capable de connaître tous les secrets militaires les plus confidentiels de la Syrie. Il pouvait connaître même toutes les paroles prononcées, ici, d'après la parole de Dieu, dans la chambre à coucher du roi de Syrie, l'endroit le mieux protégé du camp ennemi. Voilà, déjà dans ce bref passage, on voit le Seigneur qui montre, qui fait voir, qui montre à Élisée cette vision, ce plan de l'ennemi. C'est pour ça que ça correspond bien aussi avec le thème d'aujourd'hui, la vue, la bonne vision. Dieu révèle en tout cas à Élisée les stratégies de l'ennemi. Je peux faire quelques remarques à partir de ce verset que nous venons de lire. 2 Rois 6, à partir de versets 8 à 12. Nous vivons aussi dans un monde en constante bataille spirituelle. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte que nous vivons vraiment toujours en constante bataille spirituelle? Peut-être que vous avez oublié par les soucis de ce monde, mais c'est une vérité. Il y a une guerre spirituelle qui est toujours menée. Et il y a toujours aussi des défis, des épreuves, des pièges de l'ennemi qui nous entourent et qui peuvent nous décourager. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous pourvoit de sa parole et de son esprit pour nous guider et pour nous protéger. Ce qui est important, c'est que dans ce passage que nous venons de lire, il y a toujours une guerre spirituelle constante, comme le roi Syrie qui s'oppose à l'Israël, les forces spirituelles aussi de nos jours, dans la vie courante, s'opposent à nous, nous qui sommes les croyants, les enfants du Seigneur. L'apôtre Paul, d'ailleurs, nous décrit dans Éphésiens 6, verset 12, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette réalité doit nous inciter à être vigilants et aussi à reconnaître que nous avons besoin de la guidance divine. Et ensuite, peut-être deuxième remarque que je pourrais faire, dans notre passage de 8 à 12, Élisée, le prophète, joue un rôle crucial. Ici, il représente la voix de la sagesse divine dans nos vies, et donc, voilà, il pouvait justement entendre les plans diaboliques du roi syrien, et voilà. De même, la deuxième remarque que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons aussi entendre cette voix de la part du Seigneur pour aplanir notre sentier, pour peut-être réaliser nos plans, le plan du Seigneur à travers notre vie, notre témoignage. Et pour cela, pour entendre cette voix, ça peut être aussi comme ce matin par une prédication, mais aussi par les enseignements bibliques ou les méditations journalières que j'espère que vous faites, que vous pratiquez, et puis aussi par la voix du Saint-Esprit qui peuvent aussi nous parler. Nous devons en tout cas apprendre à écouter attentivement et à reconnaître la voix de Dieu parmi les bruits du monde, parce que c'est vrai que nous sommes entourés par tellement de bruits que nous puissions vraiment être sensibles à cette voix du Seigneur, spirituellement sensibles. Voilà, comme Élisée, Dieu a prévu des moyens pour nous avertir des dangers spirituels et nous guider vers le chemin de la vérité. Dans Psaume 32, 8, il nous dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Voilà une promesse rassurante pour nous. Comme Dieu a protégé l'Israël à travers aussi la voie révélée, enfin, divulgué à Élisée, Dieu aussi est prêt, toujours prêt à nous instruire, à nous montrer la voie que nous devons suivre. Il est prêt à nous conseiller. Il est prêt, en tout cas, à nous accorder sa grâce. Dieu sait ce qui nous attend. Il connaît nos circonstances, il connaît nos luttes, nos défis. Et si nous sommes disposés à écouter sa voix, il peut nous aider. Alors, après avoir entendu que voilà, c'est Élisée qui était l'origine de toute cette divulgation de ces plans, le roi de Syrie décide d'envoyer ses hommes pour l'attraper. Le roi de Syrie, au verset 13, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Voilà, il se renseigne où se trouve Élisée et là, il est informé qu'il habite à Dothan, dans une ville. Bon, d'autres prophètes, en général, ils habitaient dans des grottes, dans des lieux un peu déserts, etc. Enfin, Élisée, lui, il était dans une ville. Il aimait peut-être la ville, il aimait peut-être aussi avoir un ministère direct avec les gens de la ville. Et voilà. Alors, ces troupes syriennes étaient à siéger la ville avec des chevaux et des chars. Cela était vraiment, ça devait être vraiment impressionnant. Et voilà, voyant cette image, on doit se sentir menacé, n'est-ce pas? Et un beau matin, donc, le serviteur d'Élisée, dans l'aurore, très tôt, il se lève, et là, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit justement le siège fait par les Syriens, par la troupe syrienne. Et bien sûr, il prend peur, et puis il demande à son maître ce qu'il faut faire. Et là, il dit, ne crains rien. Car ceux qui sont avec nous sont plus grands nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ce passage de la Bible offre un enseignement assez profond sur la foi, sur la confiance en Dieu, de la manière dont il veille sur ceux qui le suivent. Voilà, donc On voit donc une armée ennemie encerclant Élisée et tous les villageois, mais aussi on voit aussi la réaction d'Élisée qui nous enseigne des leçons assez importantes. Tout d'abord, on voit les doutes, la doute du serviteur du prophète Élisée qui est face à l'adversité. Donc on peut imaginer un petit peu cette scène. Voilà. Déjà, l'armée travaille aussi, avance souvent dans l'aurore ou dans la nuit. Et c'est ce qui s'est passé avec l'armée syrienne. Et puis, un beau matin, donc, le serviteur se lève et il voit donc cette troupe. Comment vous vous sentiriez dans cette condition? Effrayé. Oui, c'est ça, effrayé. Effrayé, pourquoi? Encerclé, parce qu'il y a un risque de la mort. Hein, parce qu'il est face à la mort. Il doit se sentir comme s'il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Face à une telle menace, c'est sûr qu'il doit se sentir dans la doute, dans la peur. Et combien de fois nous trouvons-nous dans des situations similaires hein, où les phénomènes semblent insurmontables, des choses difficiles que nous pouvons traverser aussi, et avoir une certaine peur, de doute aussi. Ben, en tout cas, ses serviteurs avaient senti ce genre d'impression. Ensuite, la réaction d'Élisée est quand même étonnante. Élisée, quand on lui informe ceci, ben, Élisée, au lieu de céder à la panique, montre une confiance inébranlable de Dieu. Lui qui est toujours en communion avec le Seigneur, ben, il voyait déjà, en fait, lorsqu'il lui a informé, ben, lui, il voyait déjà l'armée céleste qui les entourait, qui était beaucoup plus nombreux, et il dit à son serviteur de ne pas avoir peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Cette déclaration est une affirmation de la puissance et de la protection divine. Est-ce que nous croyons vraiment, nous nous rendons compte vraiment de cette puissance et de cette protection qui dure même aujourd'hui? Ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce Dieu puissant est toujours avec nous. Et c'est vrai que lui, Élisée, n'était pas du tout inquiet. Du tout inquiet, parce qu'il voyait les choses. Il avait les lunettes pour bien voir, les bonnes lunettes spirituelles, et avec des bonnes prismes. Et quand il voit son serviteur qui est dans la crainte, il veut le rassurer. Et pour le rassurer, ben, il faudrait qu'il voie aussi la même chose. Et qu'est-ce qu'il fait pour que son serviteur voie la même chose? Ben, il prie. Il prie pour que Dieu ouvre ses yeux, non pas des yeux physiques, mais aussi spirituels surtout. Et suite à cette prière, Dieu répond et il lui montre, même au serviteur, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Cette vision révèle vraiment la puissance, la présence et la puissance de l'armée céleste de Dieu, prête à les défendre, mais aussi, pour nous, prête à nous défendre. Sachez qu'il y a des anges qui nous protègent, il y a aussi la puissance divine qui est toujours là, à nos côtés. Bon. Pour cette histoire, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que quelle que soit la taille de nos problèmes, Dieu est plus grand. Et si nous avons la foi et la confiance en lui, ben Dieu ouvrira nos yeux spirituels pour voir les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Ainsi, vraiment, que nous puissions vraiment marcher dans la foi, sachant que les chars de feu de Dieu sont à nos côtés. Voilà, dans le personnage biblique, il y a eu plusieurs personnages qui avaient aussi ce regard spirituel. Je vous donne un exemple d'Abraham. À un moment donné, vous connaissez cette histoire sûrement, l'histoire entre Abraham et Lot, n'est-ce pas, son neveu. Ils voyageaient ensemble à un moment donné, Il le prenait presque comme son enfant, puisque Abraham n'avait pas d'enfant à ce moment-là. Et pendant leur voyage ensemble, leurs bergers se disputent à cause de la surpopulation de leurs troupeaux. Abraham, à cause de cette dispute, propose à Lot de choisir la terre qu'il veut. Et Lot choisit de s'installer près de Sodome, une ville réputée pour sa méchanceté, aussi son immoralité. En revanche, Abraham, bien sûr, choisit de l'autre côté, se laissant guider par le Seigneur. Ce que nous pouvons voir ici dans leur choix, c'est que Lot avait le mauvais œil. Il n'avait pas cette sensibilité spirituelle pour voir que, voilà, ce n'était pas la bonne voie que Dieu a voulu pour lui. Il a été surtout attiré parce qu'il voyait, de façon littérale, la vallée fertile du Jourdain. Pour lui, voilà, il semblait qu'il n'ait pas pris en compte les valeurs morales et l'immoralité de la ville. Il a juste vu, voilà, la vallée était fertile. Et dans ce sens-là, il était préoccupé par les aspects matériels qui pouvaient justement l'aider immédiatement, que sans tenir compte des conséquences morales et spirituelles de ses choix. Alors que Abraham, lui, il avait le bon œil, il avait surtout sensible spirituellement, et il s'est laissé guider par le Seigneur en accord avec ses valeurs. Et puis avec une vision profonde et voilà, plus morale aussi dans ses décisions. Voilà un exemple où quelqu'un avait pris la mauvaise voie comme Lot et la bonne voie comme Abraham. Et par la suite, vous savez l'histoire, à la fin de cette histoire, hein, Lot qui a vécu dans Sodome et Gomorre, ils ont pu connaître beaucoup de difficultés. Il faut avoir vraiment une bonne vision pour pouvoir aussi réussir dans la vie. Pas seulement spirituelle, mais aussi dans la vie réelle, de tous les jours aussi. Ça n'a rien à voir avec la bonne vision spirituelle, mais il faut aussi avoir un bon œil. Enfin, je ne sais pas comment dire ça en français. Moi, comment ? Un bon discernement, oui. C'est discernement plus bon œil, alors. Par exemple, si pour le choix du vêtement. Il faut avoir aussi bon œil hein, pour bien s'habiller, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas cette... Comment? Acuité, ouais. Comment? Non, pas forcément, non. En tout cas, bref. Voilà. Hein. Bonne vision, bonne vision. Ah, moi, je suis bien habillé. D'accord, merci. En fait, j'achète jamais par moi-même. Quand j'étais petit, c'était mes parents. Et quand je me suis marié, c'était ma femme. Où je reçois des vêtements par les autres. Et puis, en fait, je m'habille très très mal, en fait. Hein. Et voilà, il faut avoir vraiment une bonne vision. Et dans la vie courante aussi, il faut être aussi visionnaire. Est-ce que vous connaissez un certain William Seward? Non, ça vous dit rien? Vous allez découvrir. Il était le secrétaire général d'État des États-Unis à la fin du 19e siècle. Ça vous dit toujours rien? Alors, il était celui qui négociait pour l'achat de l'Alaska. Voilà. Et vous savez qu'à un moment donné, la Russie ne voulait pas trop, enfin, était tellement pauvre, voulait vendre l'Alaska. Et donc, ils ont proposé une somme assez importante à l'époque, mais rien du tout par rapport à les ressources naturelles. Ils proposent donc aux États-Unis, et ce William Seward, c'est lui qui négocie et il accepte. Au moment où il accepte, ou il voulait accepter en tout cas dans cette procédure, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques en disant que tu vas acheter, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, tu vas acheter une glacière pour autant d'argent. etc., etc. C'est une folie, même dans le titre du de journal. Steward achète une glacière, etc. Mais bon, aujourd'hui aussi, quand on veut faire quelque chose, on est confronté à tellement de critiques. Hein? Enfin, je ne vais pas parler des politiciens, parce que sinon, il peut y avoir des divisions dans notre Église, mais pour dire que si on veut faire un projet, c'est sûr que on est confronté à des critiques, mais il faut être visionnaire. Et lui, il disait que j'achète ces terrains, l'Alaska, non pas pour notre génération, mais pour la génération future. Et il voyait les ressources naturelles. Mais il ne savait pas qu'il y avait autant de ressources naturelles, en particulier des minéraux et la pêche. Et finalement, il s'est avéré que l'achat de l'Alaska était une décision judicieuse pour les États-Unis, parce que la région s'est avérée riche en sources naturelles, notamment l'or, le pétrole, beaucoup de pétrole, le poisson, le bois, ce qui a contribué en tout cas à stimuler l'économie américaine. L'Alaska est devenue une bénédiction pour ce pays. Voilà un peu un exemple d'un visionnaire. Malgré les critiques, il a foncé et puis il a pu aussi avoir, enfin, les pays ont pu avoir beaucoup de bénéfices suite à cette décision prise. C'est juste un exemple, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devrions justement avoir aussi cette vision. Nous devrions être visionnaires, voir avec un bon œil ce qui est le bon projet de Dieu dans chaque décision que nous allons prendre. J'aimerais conclure. Normalement, aujourd'hui encore, c'est un culte un peu spécial où les enfants sont présents, donc ma prédication n'est pas aussi longue que d'habitude. En tout cas, il est essentiel d'avoir un bon œil, c'est-à-dire un sens de l'observation aiguisée dans de nombreux aspects de la vie, que ce soit pour acheter des vêtements, mais choisir aussi des conjoints. Mais Dieu demande plus que ça. C'est pas juste pour l'achat des vêtements ou l'achat de l'Alaska ou le choix de conjoint. Bien sûr, certes, c'est très important, mais Dieu demande plus que ça, un bon œil spirituel. Pour que nous puissions voir toutes les facettes, tout le plan que Dieu veut nous montrer. Il ne faut pas voir juste la partie visible de l'iceberg. Il faudrait voir toute la partie qui est enfouie. C'est la partie invisible est beaucoup plus grande parfois. Souvent même, ce n'est pas parfois, c'est beaucoup plus grand que la partie visible. Et Dieu, vraiment, justement, aimerait nous révéler. Est-ce que nous sommes vraiment prêts aussi à être à l'écoute, à avoir cette bonne vision? N'oublions pas que nous vivons dans ce monde où le diable est présent à chaque instant. Et que dans 1 Jean 2, il est dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et ce monde apporte tous ces maux pour nous faire tomber, pour nous faire trébucher. Dans ce monde perverti, nous avons besoin justement de la grâce de Dieu pour voir la bonne chose et les bonnes choses. Peut-être un piste, on pourrait vraiment prier pour que nos enfants, pour moi, mais aussi pour vous, mais pour nos enfants, pour qu'ils puissent grandir, être guidés comme le peuple de Dieu a été guidé par la voix révélée par Élisée, etc. Si vous manquez de sagesse, il suffit aussi de demander. Le Seigneur a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Que nous puissions vraiment avoir la foi, sans douter, pour vraiment recevoir cette sagesse divine, pour avoir une bonne vision spirituelle, morale, physique. Comme Élisée, soyons sensibles Et s'il y a des gens autour de nous comme le serviteur d'Élisée qui était aveugle spirituellement, bah, qu'on puisse aussi les ouvrir. Hein. Ce chapitre 6, on parle aussi beaucoup de vues. Vous savez, quand donc l'armée syrienne était présente aussi nombreuse, bah, le Seigneur réalise un miracle pour que tous ses soldats deviennent aveugles. Et donc, après, ils étaient venus pour attraper Élisée, mais c'est Élisée qui les attrape par la grâce de Dieu. Et puis, bon, au lieu de les tuer, il prie aussi pour qu'ils recouvrent la vue et il les renvoie à la Syrie. Et c'est pour avoir une paix avec la Syrie. Voilà, encore un passage à propos de la vue. Hein. Vous savez, la première partie, c'était voilà, Dieu qui se révèle, qui révèle le plan à Élisée, hein, donc qui voit ce plan, Élisée qui voit, et le plan du roi syrien. Et puis la deuxième chose, il voit de nouveau encore l'armée céleste grandiose. Et puis la troisième partie encore, voilà, l'armée céleste qui est aveuglée. Beaucoup de visions. Cette partie, en tout cas ce chapitre, nous rappelle combien il est important d'avoir la bonne vision du Seigneur, le bon œil spirituel. Bon œil spirituel, avec discernement, bien sûr, avec discernement, hein, pour que voilà, Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à avoir cet œil spirituel et nous aide. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu réalises toujours tous ces miracles incroyables avec ta puissance illimitée. Et aide-nous vraiment à être déjà éclairés par cette vision que tu veux nous révéler. Pour cela, nous avons besoin d'être plus proches de toi. Aide-nous vraiment par les méditations, par l'écoute de ta parole, par la prière, par la manifestation de ton esprit, que nous puissions être à ton écoute, Seigneur. Et voir voilà, la vision que tu nous montres pour nous, pour notre Église, pour nos proches. Seigneur, si parmi nos proches, il y a des gens aveuglés qui ne voient pas ce que toi tu veux nous montrer, que nous puissions aussi être des intercesseurs pour les entourer, pour intercéder, pour les aider à progresser dans leur foi, dans leur pour leur apporter aussi une certaine assurance, Seigneur, dans leur peur aussi, dans la crainte. Seigneur, aide-nous vraiment à être des outils que tu veux bien utiliser à la participation de ton œuvre. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Thank you.